Alors, aujourd'hui, je commence avec une citation en anglais. Mais n'ayez pas peur, je passe ensuite en français. C'est une citation de M. Hobbes, Leviathan, 1651, au début, chapitre 2, sur l'imagination. That when a thing lies still, unless somewhat else stir it, it will lie still forever, is a truth that no man doubts of. But when a thing is in motion, it will eternally be in motion, unless somewhat else stay it, is not so easily assented to. For men measure not only other men, but all other things by themselves. And because they find themselves subject after motion to pain and lassitude, think everything else grows weary of motion and seeks repose of its own accord. Alors, c'est une phrase, finalement, qui est impossible en Europe, avant Galilée. L'idée que le mouvement, pas la stabilité, mais le mouvement est naturel. Et nous voyons en Hobbes que ça change toutes les idées politiques des gens en Europe. Je veux aujourd'hui parler d'un sujet qui peut sembler assez loin de nos conférences du 5 et 12 mars, la mobilité sociale et géographique dans la France moderne. Pardon. Je commence avec la mobilité géographique, mais franchement, les deux sont si intimement liés que c'est presque impossible de les séparer. Notre collègue Daniel Roche connaît très bien la célèbre formule de Pierre Goubert, que la France moderne fut une société stable et sédentaire, parce que cette expression, qui a vu le jour dans un texte de 1967, a été reprise dans leur grand livre commun, Les Français et l'Ancien Régime. Permettez-moi de citer quelques phrases. La stabilité, et c'est Goubert qui parle, parce que ça vient en direct de son livre L'Ancien Régime des années 60. La stabilité des groupes humains est non moins évident. Il est surtout très facile d'accumuler les 1000 détails pittoresques qui montrent que les Français se déplacent, errent, émigrent, apparemment beaucoup. Au même moment, pour l'ensemble du royaume, fut-il jamais 1 million ceux qui errent, migrent provisoirement ou se transplantèrent. 19 millions sur 20 du mur attachés à la terre ou l'opin, à la cabine, à la chaumière, au quartier où ils étaient nés. Ce ne sont pas les agitations, les brassages, les migrations d'hommes qui caractérisent l'ancienne France, mais bien la sédentarité. Fin de citation. Alors, 1 million, 5% dans un moment donné, c'est pas mal. Et si ces errants sont toujours différents chaque année? À la fin de 10 ans, ce sera un déplacement de la moitié de la population. Si nous prenons un quart de ces 5% comme chiffre raisonnable pour les récidivistes, on peut dire qu'environ 40% des Français du XVIIe siècle changent de domicile en chaque décennie. C'est pas mal, ça, 40%. Si c'est vrai, et on revient dans un instant, nous devons repenser la conclusion de Goubert et de beaucoup d'autres historien. Dans sa conception d'un fossé entre la réalité d'une société stable et sédentaire et la rhétorique des élites parlant toujours de mouvements et des dangers de mobilité de toutes sortes, et avant Galiléo, nous devons reconnaître que les gens disent toujours que la stabilité est naturelle. Michel Foucault trouvait le clé de voûte de l'analyse de la construction de nos sociétés contemporaines avec leurs moyens de répression et de plus en plus d'autorépression. Il fait une liaison directe entre la gouvernementalité et le contrôle de la mobilité. Et je cite une entrevue en 1981 qu'il a donnée à l'Université de Louvain. Je dirais de la problématisation, c'est-à-dire l'histoire de la manière dont les choses font problème. Pour les autorités modernes, le mouvement n'est pas naturel, et c'est donc un problème. Beaucoup d'historiens mélangent la problématisation de la mobilité par ses autorités et le modèle des analystes d'une société stable et sédentaire. Pour eux, le décalage entre les deux est au cœur de nos analyses de l'Ancien Régime. La rhétorique contre le mouvement existe partout. Je donne un seul exemple. Le conseil municipal de Châlons en Champagne en 1619, face à la maladie contagieuse, a pris des mesures typiques dans une rhétorique normale. Ils insistent que tous ceux qui sont venus à Châlons depuis 3 ans devaient s'enregistrer avec la municipalité. En outre, ils se déclarent très mécontents parce qu'aucun immigré récent n'avait pas venu au bureau de ville, dans les 3 premiers jours de leur présence à Châlons, ce qui est obligatoire. En octobre, c'est leur consternation au mépris de l'autorité du roi et des magistrats. Le conseil a sollicité un édit royal. Alors, comme d'habitude, le conseil du roi reprend la majorité du texte de l'édit du texte des demandeurs. Et je cite, « Plusieurs personnes étrangères et inconnues et autres originaires des lieux et provinces éloignées quittent, abandonnent et changent de pays et leur demeure. Il pourra engendre et apporter de l'altération en l'amitié, concorde et société et aux bonnes mœurs qui sont parmi les anciens habitants desdites villes ou fomenter les partialités et divisions qui se trouvent quelquefois en Israël. S'ils n'étroient bien reconnus en leur vie, mœurs et conditions, à croire, désirant pourvoir pour le bien, repos et tranquillité de nos sujets. Nous voulons que telle personne, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait leur déclaration, soit privée de la clémence qu'ils y aura voulu prendre et qu'ils soient mis hors, dit celle, comme indigne d'y avoir leur habitation. Cette idée, si on prend la situation de nos jours, par exemple, cette question de bien reconnu en leur vie, mœurs et conditions, je peux citer la situation au Canada où on a un système de points. Et on donne autant de points pour l'argent, pour l'éducation, la formation, et tous les gens qui veulent faire l'entrée au Canada, ceux qui ont le plus de points sont bienvenus, et les autres qui n'ont pas de points ne sont pas du tout les bienvenus. Alors donc, ça n'a rien de nouveau. Les registres de libération partout racontent la même histoire. Tout le monde a peur des inconnus avec leurs paroles insolentes, des forains, des étrangers, des vagabonds. C'est surtout une question des vagabonds, pas tellement des mendiants. C'est beaucoup moins une question de mendiants, surtout dans les villages. Un mendiant, c'est quelqu'un qui habite dans le village, qui est un villageois. On trouve toujours dans les rôles d'État des mendiants. Là, il n'y a pas de problème. Mais un vagabond, quelqu'un qui vient d'ailleurs pour quêter, ça c'est autre chose. La fin du XVIe siècle est une période particulièrement xénophobe en France. On dénonce les financiers italiens, les lanxnecks allemands et surtout, après 1589, les Espagnols. Foucault et un foule d'historiens faisaient de ces efforts de contrôler les pauvres, les vagabonds, les exclus de toutes sortes, un élément fondamental de notre compréhension de la société moderne. Tout récemment, Vincent Davis surtout et Karl Hesse font de ces efforts de la contrôle de la mobilité. Et pour Davis, la création même du concept de mobilité de personnes, un des moteurs de la construction de l'État. Vous voyez là un bon exemple de l'influence de Foucault, à mon avis. Si vous voulez savoir plus sur ce climat de peur à la fin du XVIe, je vous conseille de lire Mathilde Bernard et écrire La peur à l'époque des guerres de religion. La mémoire du chaos du XVIe siècle reste toujours vivant, même sous le roi Soleil. En 1655, par exemple, le conseil municipal de Châlons, toujours en Champagne, toujours vigilant contre les exclus, demande aux filles et femmes débauchées, scandaleuses et de mauvaise vie de sortir incessamment de cette ville et faubourg à peine de carquin et d'être rasés. Et aux hommes vagabonds et gens sans aveu de quitter la ville en 3 jours sous peine de fouette. Nous avons vu la semaine dernière la peur, l'angoisse devant le désordre des mots, aussi bien que des choses parmi les élites françaises, on peut dire européennes, du XVIIe siècle. Ne revenant plus tard sur la distinction entre femme et homme par rapport à la mobilité. Je ne nie aucunement l'existence des noyaux stables dans la France profonde autrefois. Mes propres recherches, par exemple sur Alignan-Mauvon, ont trouvé des familles de notables ruraux qui persistent pendant plus de 500 ans. Alors, Aligny, évidemment, c'est un village mémontable. La mobilité, c'est assez difficile. On voit les noms de 13 familles du XVe siècle sur le monument aux morts de 1940. La famille Regnault portait une cote assez forte pour le fouage de 1475. Elle possédait toujours une maison au croisé des chemins dans le centre de Fétigny, dans le hameau de Fétigny à Aligny, en 1675. Elle habite toujours dans le même emplacement en 1995. Pourtant, la paroisse en question, Aligny, est loin d'être un village immobile, pour reprendre le titre si saisissant de Gérard Boucher. Premier constat, il y avait des différences assez importantes parmi les régions françaises. Aucun reste coincé avec des liaisons assez tendues au grand monde. À mon avis, c'est rare. Mais la plupart sont assez ouvertes pour reprendre la formule d'Alain Croix. Le titre d'un article, l'ouverture des villages sur l'extérieur fut un fait éclatant dans l'ancienne France. Daniel Roche, pour son livre magnifique de 2003, Humeur vagabonde, cite cet article d'Alain Croix et soutient quelques-uns de ses conclusions. Et je cite, « À Macérac, près de Redon, au pays nantais, fief incontesté de l'endogamie au XVIe siècle, la mobilité des villages un siècle plus tard est incontestable. Elle est prouvée par la confrontation des rôles fiscaux de 1655 à 1668. 16% des contribuables disparaissent en moins de 5 ans. Autour du cœur stable des villages gravitent un milieu d'arrons et de migrants voyageurs plus organisés. Le constat n'épargne pas les villes et les bourgs, Vannes ou Lannion en Bretagne, Dourdazac en Limousin, vous donnez le château en Bourgogne. D'où viennent ces exemples? La note nous informe qu'il vient de l'article d'Alain Croix, citant un article d'un livre d'un Américain, celui qui vous parle aujourd'hui. Cette image du cœur stable des villages, autour duquel gravite un milieu d'errants et de migrants, est une traduction paraphrase d'une de mes phrases. There was not one French society, but two, the stable core villages and the massive floating population that swirled among them. Ça, c'est d'un article de 91. Un jeune historien travaillant sur l'élection de Poitiers au XVIIIe siècle, Hervé Lacrampe, qui est un doctorant à Poitiers, a repris ce formule d'une manière assez aimable. Je cite, « L'historien américain Collins jette les bases d'un premier questionnement en mettant en avant une structure villageoise duale associant un groupe d'individus stables, car possédant la terre et jouissant d'un solide réseau de clientèle, à une frange turbulente en constant renouvellement. La thèse a du charme et a été enrichie par Alain Croix. » Alors, avec Bernard de Rouet, qui a publié en 1989 un très bon article sur la mobilité dans le Téméré, je suis donc en quelque sorte à l'origine du débat récent sur la sédentarité et la mobilité dans la France moderne. Et donc, je dois vous expliquer comment, avant de parler de la nature de cette société. En 89, j'ai envoyé aux Annales un article sur la mobilité sociale et géographique en France au XVIIe siècle. 14 mois plus tard, toujours pas de réponse, j'ai écrit une lettre, et comme ça, nous souvient de ces temps primitifs avant les emails, à la direction. Monsieur Jacques Ravel, chef de la comité de la rédaction, m'a envoyé une réponse aussi rapide que gentille. Il m'a dit que l'article en question a soulevé le dispute le plus âpre de l'histoire de la comité de rédaction, dispute qui se termine avec la rejection de l'article, sans aucune raison. Je l'ai publié en 91 dans le journal Social History. Quelques années plus tard, suite à la publication de mon livre sur la Bretagne, dans laquelle j'ai mis quelques observations sur la mobilité en Bretagne, j'avais l'occasion de manger chez Alain Croix. Nous discutions la question de la mobilité. Il restait toujours un défenseur de l'orthodoxie goubertienne, et il est lui-même un des piliers. Il a fait un très bon livre sur le pays nantais au XVIe siècle. Mais surtout, il m'a posé des questions de méthodologie. Quand je lui répliquais avec quelques résultats de mes autres recherches, il devenait un converti. Vous savez, le chaleur de tous les convertis. Alors, en 99, il a écrit l'article cité par Roche et depuis par tant d'autres chercheurs. Cet article a suscité deux sortes de réponses. Une défense acharnée de l'orthodoxie par Jean-Pierre Poussou et de Jacques Dupaquier, et une offensive de jeunes chercheurs qui veulent têter ces hypothèses comme la crampe ou en Picardie et l'Île-de-France, Benazan et Mello. Alors, pas besoin de citer tout ça, alors peut-être une seule phrase. Presque de ça, c'est de Poussou dans sa réponse. Presque tous ceux qui sont nés dans une paroisse rurale passent leur existence entière dans cette paroisse ou dans l'horizon de son clocher, soit dans un cadre qui ne dépasse pas 10 km de rayon. Il en va de même pour les bourgs et les tout petites villes. Alors là, je pense que ce n'est pas de dur. Alors rien ne me plaît plus que d'être associé avec mon ami Alain. J'en admire tellement les travaux. Ce qui me trouble aux travaux récents, c'est l'absence absolue des connaissances d'un autre, non seulement de l'article de 91, mais d'un autre article dans la revue French History de 2006, que j'ai publié sur la mobilité en Normandie et en Champagne. Ce n'est pas une question uniquement d'amour propre, mais de méthodologie. Ce deuxième article reprend les thèmes de mes conversations avec Alain Croix. Pour ceux parmi vous qui connaissent Alain, vous pouvez imaginer qu'il m'avait posé des questions les plus profondes sur les problèmes méthodologiques de l'article de 91. Il y avait pas mal de problèmes. Ces critiques m'ont beaucoup aidé d'approfondir mon programme de recherche depuis 2000. Alors, le titre « Hit the Road, Jacques », qui vient évidemment de Ray Charles, c'est le titre d'un livre sur lequel je travaillais depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, je veux vous présenter non seulement quelques conclusions, mais surtout quelques points de méthodologie. Si nous voulons bien comprendre ce mélange au corps stable, au milieu des vents, parfois des tempêtes, des arentes, nous devons passer bien au-delà des rôles d'État, qui sont la source principale de l'article de 91. Pour moi, le problème est celui des sources. Alors, la base de l'image d'une société immobile reste les taux d'endogamie. Là, aucun débat, l'endogamie géographique est une des réalités frappantes de la société française du XVIIe siècle. Ça, c'est évident. Mais l'endogamie nous donne qu'une photo, et non pas un film, de la vie de nos aïeuls. À ce moment, les conjoints se trouvent au village, souvent le village de naissance des deux, mais avant tout dans la paroisse natale de la femme. Le droit canonique, après tout, exige le mariage dans la paroisse de la famille de la femme. Et dans la société moderne, le mariage est une institution ecclésiastique et non civile, et c'est aussi l'union de deux familles, pas uniquement de individus. Ma méthodologie sort des documents du système fiscal. Ces diables de documents qui sont les rôles de taille m'ont souvent donné des surprises. Lisant le rôle de fouage d'Audierne pour 1616, par exemple, j'étais frappé par la présence d'autant de femmes, 25%. Je n'avais jamais noté la présence des femmes sur mes rôles de taille. C'est assez typique pour un historien masculin. Donc, j'ai dû les revoir pour faire la comparaison. Est-ce que c'est normal ou c'est quelque chose d'exceptionnel ? Quelques années plus tard, j'ai écrit un article sur le rôle économique des femmes en France au XVIIe siècle. Il y avait, sans que je ne l'étais conscient, pas mal de femmes taillables faisant une activité économique. On revient sur cette question à la fin de la communication. Or, la même chose m'est arrivée avec la mobilité. D'abord, c'est les rôles de fouage de la petite ville de Lannion, plus ou moins 4000 personnes, de 1641, de 1651. La ville a perdu 75% de ses contribuables en 10 ans. 75%. Ensuite, c'est le village de Dournazac, que je connais un peu grâce à M. Berbich, dans le Limousin, 49% en 7 ans, entre 1623 et 1630. Partout, j'avais trouvé la même histoire. En village, de 5 à 7% des taillables disparaissent chaque année. En ville, c'est entre 7 et 10%. Je ne parle pas ici des désastres, c'est si fréquent dans cette société si fragile. Nous avons des pertes de 25% de la population dans plusieurs villes de l'ouest de la France à la fin des années 1620 à cause de la peste. Les soldats peuvent être un fléau aussi redoutable. La petite ville d'Arcambarois, pardon, qui a eu la mauvaise chance d'être sur la route des troupes allant en Franche-Comté en 1674, a perdu un tiers de ses taillables en 3 mois. En 1675, François Bretagne, lieutenant général de l'Auxois, commissaire des États de Bourgogne, est arrivé à Arcambarois. Il trouve que, et je cite, « les maisons sont bien bâties, mais une grande partie inhabitée. » Pourquoi ? Depuis la confection du rôle de l'année dernière, 142 habitants, c'est-à-dire 38%, sont sortis du dit-lieu pour aller demeurer en d'autres au sujet des fréquents logements de gens de guerre qui ont ruiné tous les habitants, ce qui est cause qu'ils n'ont pas même fait un rôle la présente année, puisqu'il est impossible de tirer aucune chose des habitants ni de payer leur taille, sinon par le remboursement qu'ils espèrent des logements et états pour le paiement de la somme de 3500 livres. C'est une ville avec beaucoup, d'après lui, d'artisans, manouvriers, fendeurs de bois, gens, je cite encore, sans bien, qui gagnent leur vie par leur travail, les femmes, filles et veuves s'occupant singulièrement à tricoter et faire des bas de coton, qui est le seul moyen qu'elles ont de subsister, et à vrai dire, le seul commerce qui se fait par la populace y ayant très peu de bourgeois. Le rôle de taille confirme le constat du syndic d'Arcambarois. Parmi les 220 taillables qui restent dans la ville, nous trouvons 62 femmes. La première page nous donne une bonne idée de la situation globale. 13 côtes, dont 15 disparues. Parmi les 8 qui restent, on trouve deux vieux hommes de 70 ans, deux veuves, une pauvre fille et un étroupier. Et les 5 émigrés, alors un qui paie 50 sous s'est déplacé seulement 4 km. Un autre, toujours payant 50 sous, 12 km. Pierre Pistec, maçon, même tarif, 35 km. André L'Huillier, 4 livres et demi, est allé en Champagne, donc au moins 30 km. Claude L'Huillier, 4, presque 5 livres, 35 km. Alors, ça nous donne une très bonne idée de la situation ensemble. Les pauvres se déplacent dans des très courtes distances, mais les gens plus aisés, parfois des distances assez importantes. On peut dire, on a évidemment des autres désastres, le Midi en 1693, toute cette question d'immigration des protestants, surtout en 1685. Et on a pas mal de données là-dessus dans les rôles d'État des régions qui ont des protestants, par exemple en Bourgogne, dans la paroisse du Buxy. On voit que même en pleine guerre, l'administration a fait tomber leur taille par un tiers à cause de l'immigration des protestants. Je ne parle pas de ces incidents, bien qu'ils soient tellement courants que nous devons penser que ces épisodes formaient un élément permanent du système sociodémographique. Non, je parle du mouvement annuel de la population, soi-disant sédentaire. Nous pouvons le diviser en trois éléments fondamentaux. L'errance, la mobilité locale, surtout des jeunes hommes célibataires, et troisièmement, les déplacements de famille. Il y a presque 50 ans, Robert Mondrou, dans un livre tellement innovateur qu'il reste toujours d'une étonnante fraîcheur, Introduction à la France moderne, a fait des remarques bien justes sur l'errance. Le nomadisme vient au premier rang des évasions de la ville normale. Cette fuite à travers l'espace que rien ne peut empêcher. Étudiants, paysans, artisans, pèlerins, soldats et surtout les redoutés vagabonds qui font métier de courir la route. Tous ces hommes peuplent les grands chemins et trouvent leur joie parcourir l'Europe pendant des années. Cette mobilité à laquelle d'aucuns ont cherché des répondants lointains dans une histoire imbue de primitivisme racial est un des grands traits sociaux de l'époque. Vous comprenez pourquoi Buber a fait référence aux 1000 détails pittoresques de cette errance dont il veut nier l'importance fondamentale. Aux catégories de Mondrou, j'ajoute des marins, des mendiants, des gitanes, des gens de la forêt, des bateliers, des charretiers, la foule énorme de main-d'œuvre temporaire. Si les crises généraux sont relativement rares, et ceux de 1709 entraînent un déracinement sans parallèle dans l'histoire de l'Ancien Régime, des crises locales sont banales. Presque tous les ans, nous voyons une crise frontière ici ou là, ce qui met en route une bonne portion de la population d'une telle ou telle région. Franchement, pris dans l'ensemble, il me semble que c'est plutôt 10% de la population en moyenne qui se sont déplacés sur les chemins royaux chaque année. Roche, en 2003, a pris la bonne conclusion à ma vie. Et je cite, « Entre le mouvement et la stabilité, l'échange est permanent. Les régions les plus sédentaires, en apparence, n'échappent pas et très tôt à ces multiples présents passagers, à ces mouvements constants. » Ensuite, Roche passe à une question absolument critique. Si les gens voyageaient, pourquoi ? Autrefois, je cite encore, « Autrefois, et plus particulièrement à l'époque moderne, comment pouvait-on bouger ? Qu'est-ce que incitait les uns et les autres au départ ? Qu'est-ce qui invitait au voyage et à la découverte des nouveaux horizons qu'il est censé toujours apporter ? Tout, pourtant, semble s'opposer à cela. Les références sociales et morales, les représentations et les pratiques dans la société ancienne, nul n'est reconnu sans l'aveu des autres et une localisation admise plus que contrôlée. La première raison de déplacement, évidemment, c'est la misère. Mais on peut aller plus loin. La raison fondamentale de la plupart de la mobilité et de la migration dans la France moderne, comme de nos jours, c'est sa condition économique. On bouge non seulement à cause de la misère, mais pour améliorer sa vie. La spéculation de Roche que les changements économiques, surtout l'essor de la manufacture, avaient entraîné une migration des ouvriers recherchant un boulot est confirmée par mes sources. Alors, je dois parler un peu des sources. Deux secondes sur les rôles de détail. Alors, du fouage, il présente une image partielle de la situation. Alors, dans le livre, chaque chapitre traite la mobilité par le moyen d'une source, d'une méthode différente. D'abord, un chapitre sur la base des rôles de détail. Ensuite, un chapitre utilisant les registres de transactions de domicile en Champagne, et un autre sur la Normandie. Quatrième chapitre, je me sers de la documentation fiscale bourguignonne, surtout les recherches des feux des États de Bourgogne. Les deux derniers chapitres traitent les petites villes, moins de 5000 habitants, et une micro-histoire d'alignement au vent. Je parle aujourd'hui de trois sources principales. Je parle très peu des rôles de détail, mais surtout des registres de transactions de domicile et recherches des feux. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un rôle de détail ? Le roi exige un impôt direct de ses sujets. surtout des roturiers en dehors des grandes villes. Nous savons tous l'exemption du clergé, de la noblesse, mais les habitants des villes comme Paris ou Lyon ou Rouen sont aussi exempts de la taille. Les habitants de Bordeaux paient le taillon, mais non pas les autres impôts directs. Il y a énormément de différences partout en France. L'impôt de base s'appelle la taille ou la grande taille. Dès 1695, nous avons un deuxième impôt direct, la capitation. Elle a parfois des rôles distincts. Au XVIIIe siècle, il faut ajouter le dixième, le 20 pendant quelques temps, et le 20e en permanence dès 1749. Pour les taillables, on jumelle d'habitude les rôles de taille et de capitation dans la plupart des paroisses. Et on donne toujours les deux côtes, la côte de la taille et la côte des tailles, et la côte de la capitation, mais c'est presque toujours le même rôle. Le 20e avait toujours un rôle séparé. Et aussi, à la fin du 18e, on a aussi le 20e d'industrie. Ces rôles de taille sont d'une variété stupéfiante. Et il en existe très peu pour le 17e, finalement, avant l'époque de Colbert. Pour le 18e, c'est bien autre chose. Toujours en ligne de nombre et la cotisation. Mais ces documents peuvent nous donner la profession, toujours, presque toujours en ville, au moins pour les professionnels, les marchands et les maîtres artisans. Et ça devient presque universel au 18e siècle, même dans les paroisses. En Normandie, par contre, même en 1645, nous lisons dans le rôle d'État le nom et les professions. Profession, voilà. Si le taillable possède ou non sa maison, combien de terres il possède, combien de terres il loue et combien d'animaux il possède. C'est pas mal de documentation. Au XVIIIe siècle, ces données deviennent normales dans la plupart de la France, au moins en Normandie et en Champagne et en Bourgogne, je ne sais pas ailleurs. Vous pouvez peut-être te renseigner. En Champagne, par exemple, on ne donne pas seulement tous ces renseignements, mais aussi le nombre des ruches. Pour les femmes, nous voyons une évolution assez instructive, à mon avis. Au milieu du XVIIe siècle, on dit presque toujours « veuve de quelqu'un », ou parfois le prénom de la femme. Pour les filles majeures, comme on dit, on donne parfois le seul prénom, par exemple la fille Marie. Au début du XVIIIe siècle, on donne toujours le nom de la femme. Il n'est pas question de la fille Marie. Marie a toujours un nom de famille. Si elle est un veuve, on donne aussi la formule « veuve de M. X ». Si la femme en question garde le commerce de son mari, on dit quelque chose comme « Marie Lebrun, veuve de Jean Labette, boulanger ». Au milieu du XVIIIe siècle, dans la même situation, on dit toujours « Marie Lebrun, veuve de Jean Labette, boulangère ». Elle n'est plus. Maintenant, on respecte sa commerce. Elle est boulangère. Toujours au milieu du XVIIIe siècle, les filles majeures portent non seulement toujours un vrai nom, comme Marie Bernard, quelque chose comme ça, mais aussi soit une profession, soit pour les riches, la notation « demoiselle ». Alors, je peux vous citer par exemple le rôle d'État de Chalon-sur-Seine du XVIIe siècle. Là, aux années 60 du XVIIe siècle, moins de 10% des filles ont une profession, deux ou trois. Au milieu du XVIIIe siècle, en 1752, il y en a une trentaine de filles et tous ont une profession. Il n'y a pas question qui ne donne pas ce qu'on dit, leur qualité. Alors, blablabla. Contrairement à ce qu'on pense souvent, les pauvres sont presque toujours sous le rôle. Un pauvre veuve qui n'est pas imposée, par exemple, perd son droit de glanage dans la plupart de paroisses. Alors, le problème avec les rôles d'État, c'est que c'est complet, mais décevant. Le départ d'un jeune homme n'a pas du tout le même effet que celui d'une famille entière. Le pourcentage des réductions des imposables est donc nettement supérieur au pourcentage de la réduction de la population. Alors, ces déplacements de journaliers, c'est un pur saint qui se déplace d'une paroisse à une paroisse adjacente. Alors, notre deuxième source, le registre de transactions de domicile, comble ce déficit. C'est quoi un tel registre? Si un imposable quitte sa paroisse pour rétablir son domicile ailleurs, il doit s'enregistrer au bureau d'élection. L'excellent article de Lacan reste sur celle de l'élection de Poitiers. Il ou elle doit signer, et c'est une source absolument remarquable sur les questions de l'affubitation en France. Par exemple, c'est fascinant pour moi. Alors, tous ces registres de transactions de domicile en Normandie, on voit que les années 1660-1680 sont les années de l'affubitation des laboureurs en Normandie. Au début, les laboureurs ne savent pas signer. Mais dans une déclaration, par exemple, de 1670, beaucoup de temps, on a père et fils, et c'est le fils qui signe. Alors, ça veut dire évidemment que le père ne sait pas signer. Alors, c'est impensable que le fils signe si le père sait signer. Et dès 1680, 95, 90, plus ou moins, tous les laboureurs en Normandie sont capables de signer leur nom. Alors, il y a toujours un décollage, évidemment, entre les femmes et les hommes. Alors, les gens peuvent utiliser malheureusement un procureur ou un tiers pour faire leur déclaration. Malheureusement, au moins en Normandie, ça devient de plus en plus commun vers 1700. Alors, dès 1700, bon, on ne peut pas l'utiliser beaucoup pour cette question d'affubitation. Nous voyons que très peu de journaliers font une telle déclaration et que le pourcentage des laboureurs sur les registres des transactions de domicile est nettement supérieur à leur pourcentage sur les rôles d'État. Partout, c'est 2, 3, même 4 fois plus élevé. Pourquoi? La raison la plus importante d'une telle déclaration, c'est l'impôt. Si vous avez déjà payé vos tailles dans votre paroisse d'origine, vous avez besoin d'un certificat pour le prouver. La loi exige ensuite que les immigrés qui ne sont pas originaires de la paroisse comme ça, vous ne devez pas payer l'État dans votre nouvelle paroisse pour cette année. La loi exige ensuite que les immigrés qui ne sont pas originaires de la paroisse renoncent à l'incolate, c'est-à-dire le droit d'habitation pour quelqu'un qui n'est pas né dans la paroisse. Dans une ville close, les immigrés doivent faire une déclaration devant la municipalité, comme nous avons vu en Chalons. Les immigrés doivent faire une déclaration de leur intention de renoncer aux privilèges des habitants de la ville. Donc, les rôles d'État surestiment l'importance de la mobilité de journaliers, surtout des jeunes hommes, mais les registres de changement de domicile les ignorent, plus ou moins. Les registres de transactions de domicile surestiment les laboureurs et les autres aisés. Les transactions de domicile excluent malheureusement les déplacements des exempts. Autre problème, type de source existe en Normandie dès 1665, mais ailleurs seulement bien après. 1680 pour la Champagne, plus tard encore en Poitiers ou en Guyenne ou dans le pays chartrain. Troisième difficulté, pour des raisons inconnues, les imposables font de moins en moins de déclarations dès 1710 en Normandie. C'est une source assez riche pour la Normandie pendant 40 ans et pour la Champagne pendant 20 ans. Mais ailleurs, il n'est pas fiable du point de vue statistique parce que les registres ne commencent qu'en 1700, quand les registres normands qui datent, commencent leur diminution. L'article de Marshall Lachiver sur un registre normand de la fin des années 1720, par exemple, sous-estime l'ampleur de la mobilité normande parce que les déclarations des autres élections normandes avaient tombé par 50% entre 1700 et 1725. Les rôles d'État de ces années-là indiquent toujours les mêmes niveaux de déplacement, avec bien sûr une forte croissance en 1709 et 1710. Donc il ne faut pas prendre les déclarations de 1730 comme typiques ou même intégrales. C'est intéressant que cette diminution n'avait pas eu lieu que bien plus tard en l'élection de Poitiers, où nous trouvons que le registre de transactions de 1750 et 1751 donne un chiffre de 773 déclarations, c'est-à-dire 337 déclarations par an. Et celles des années 1763 et 1775, beaucoup moins. Mais, comme on m'a dit au début du siècle, il s'agit surtout d'un changement de pratique. Alors, je rate là pour un instant. Dans toutes les élections, dont on a des chiffres, on a combien de déclarations de changement de domicile par an? Environ 350, même 400. Dans les années de crise, évidemment, beaucoup plus. Alors, il y avait combien d'élections en France en ce moment-là? 160. Ça veut dire environ 60 000 familles. Il ne s'agit pas des journalistes, il s'agit des vraies familles. Et ça, c'est uniquement les pays d'élection. Ça, un peu plus d'un tiers, de deux tiers du royaume. Alors, est-ce que ça veut dire que 90 000 familles françaises se déplacent tous les ans pendant la fin du XVIIe siècle? Ça me paraît presque évident. Et c'est pas mal de personnes. Alors, troisième source, les recherches des feux des États de Bourgogne. Tous les 10 ans, plus ou moins, les États de Bourgogne envoyaient des commissaires partout en Bourgogne pour vérifier la situation des paroisses. Ces documents remontent au XVe siècle. Les archives départementales de la Côte d'Or, dont l'efficacité est une des gloires du service public en France, les ont digitalisées. Le commissaire, pour moi, c'est intéressant parce que j'ai toutes mes notes sur ces registres avec un crayon il y a 25 ans, et maintenant tout est là dans mon ordinateur, c'est bizarre. Le commissaire voyage avec son clerc, évidemment. Il est souvent un officier royal. En 1611, par exemple, le commissaire au bailliage de Dijon et d'Autun fut Pierre Lenné, président de la Chambre des comptes de Bourgogne. Avant Colbert, le commissaire avait une discrétion presque totale sur le contenu de son procès-verbal. Oui, il doit donner le montant de la taille et le nombre détaillable, aussi bien que quelques renseignements sur la situation économique de la paroisse. Une des choses qui m'intéresse le plus dans le pays vignoble, en Bourgogne, on donne l'appréciation des vins du village en question. Et leur appréciation, c'est exactement la même que le nôtre, exactement la même que la nôtre. Donc, on a du très bon vin à Volnay. Et juste à côté, c'est un peu moins bon. À Santenay, ce n'est pas encore bon qu'à Volnay. On peut vérifier ça chez Nicolas, juste à côté. Alors, en 1611, M. Lenné avait l'heureuse idée de croire qu'il avait l'obligation de faire un recensement des maisons. Donc, il nous donne le nom, profession du propriétaire et le cas échéant du locataire. Il cite même des maisons ruinées, et celles qui sont inhabitées. Pour les bailliages de Dijon et d'Autun, donc, nous possédons un recensement de dizaines de milliers de maisons pour 1611. Des dizaines de milliers de maisons. Cette documentation nous permet de savoir d'une manière assez exacte l'ampleur de la propriété paysanne, au moins pour leurs maisons. Ces documents ne donnent aucun détail, malheureusement, sur la possession des champs, des vignes, etc. Et je peux vous dire que, au moins 60% des paysans en Bourgogne en ce moment-là possèdent leur maison. Pour les vignerons, presque toujours. Des laboureurs, ça dépend, des journaliers assez rarement. C'est normal. Dès Colbert, il n'est plus question des détails pittoresques. Les procès-verbaux ne laissent aucun doute qu'il a rédigé une rubrique pour les commissaires. Combien de feux, combien de veuves, combien de charrues? Les trois chiffres se trouvent toujours en marge, aussi bien que dans le document. Les plus grandes cotes, la distribution des cotes, l'industrie, l'agriculture, quel grain, quelle quantité de semences par arpente, Quel rendement? Alors ça, c'est une autre source presque inconnue. Il y a 40 ans, on a Stieg van Baat et les autres ont beaucoup parlé de la question du rendement au XVIIe siècle en Europe. La meilleure source que je connais, c'est ces investigations de feux, des feux en Bourgogne. Là, pour, beaucoup plus de 1000 paroisses, on a les rendements pour les années 70 et 80 du XVIIe siècle. Dans chaque paroisse, on donne la sémence, le rendement et la sémence en question. La plupart du temps, il s'agit du seigle, mais parfois du froment. Alors, le commissaire doit aussi répondre c'est quoi la dîme, la taille seigneuriale, les noms des seigneurs de la paroisse et autres détails utiles et de temps en temps du pittoresque. Un de ces détails utiles, au moins pour les recherches sous Louis XIV, c'est les noms et les destinations des émigrés. Et les noms et villages d'origine des immigrés. Alors, les détails sont beaucoup plus exacts pour les émigrés parce que le commissaire avait toujours devant ses yeux les deux derniers rôles détails. Donc, il connaît le nom de tous les taillables de la paroisse. Les autorités locales avaient des bonnes raisons d'insister sur l'importance des émigrés et de sous-estimer l'ampleur et la richesse des immigrés. Pas de raison évidente. Alors, Alors, je reviens sur cette question de destination dans une minute. Alors, pour le XVIIIe siècle, en Normandie, nous voyons, au première moitié du XVIIIe siècle, toujours des niveaux assez importants de déplacement. Je vous cite la paroisse Normand de Aubermesnil. Parmi les 23 noms de famille de 1695, seuls 4, 12%, se trouvent toujours dans la paroisse en 1758. Par contre, 16 parmi les 20 noms de paroisse de 1750 sont toujours sous le rôle de 1789. Cette situation est facile à comprendre parce que la métairie la plus importante d'environ 75 hectares appartient au seigneur d'Aubermesnil. En 1695, cette seule métairie englobe 36% des terres laborables de la paroisse. En 1789, c'est 47% des terres laborables. Les métailleurs vont et viennent pendant tout le XVIIIe siècle. Aucun métayer porte un nom de famille déjà existant dans le village. À Aubermesnil, l'indice le plus fiable pour la stabilité, c'est la possession d'une vache. Oui, une seule vache. Avec l'exception du tisserand, d'Oucheron, tous les noms de famille de ceux qui ont une vache en 1758 restent toujours sous le rôle d'impôt de 1789. Les paysans ont beaucoup plus de bétail au milieu du XVIIIe siècle que sous Louis XIV. Dans notre paroisse normande d'Avre-Ménil, les taillables possèdent en 1695 33 chevaux et autant de vaches. En 1745, 66 chevaux et 51 vaches. Et ça, cette situation est assez commune en Normandie. Et sans doute en Île-de-France, surtout pour les riches fermiers. Il faut insister que cette distribution des animaux n'est pas du tout égalitaire, ou encore pire dans la région pharisienne, d'après les chiffres extraordinaires donnés par Jean-Marc Morisseau. Dans les régions pauvres, par contre, comme le Vanité en Bretagne, nous ne voyons aucun changement dans le nombre de bétail paysans. Alors, dès 1720, nous voyons la continuité de la mobilité, dans la mobilité, mais aussi deux changements importants. Beaucoup plus de mobilité féminine et des déplacements de plus en plus fréquents vers des villes. C'est le mélange de mobilité sociale et géographique. On déplace comment, pour répondre à la question de M. Roche, sur les grands chemins. Là, je le sais d'après les recherches des feux en Bourgogne, parce qu'on donne le nom de toutes les destinations. Et on voit même des journaliers prendre les grandes routes. Il n'est jamais question, par exemple, à Aligny, la route mène de Saulieu à Aligny, à Aligny et jusqu'à Autun. C'est une route romaine. Tous les gens, sauf les gens qui habitent dans un hameau de la paroisse qui est extrême l'ouest de la paroisse, adjacent du Nivernais, et Aligny est dans le département de la Nièvre maintenant. Là, les gens vont à l'ouest, mais autrement, tous les immigrés d'Aligny vont soit au nord, soit au sud. Il n'est jamais question d'aller est-ouest, parce qu'il n'y a pas de route. On peut imaginer, pour une famille, c'est encore plus obligatoire, parce qu'on a besoin des charrettes. Alors, des déplacements des journaliers sont presque, en Bourgogne, sont presque toujours aux limites de 15 kilomètres. Pour les riches, c'est beaucoup plus important la plupart du temps. Et là, un deuxième constat qui peut être un peu surprenant. Un des groupes les plus instables dans les villages français, c'est les laboureurs. Les gens stables sont les manouvriers, les petits paysans. Les deux groupes instables sont les journaliers qui se déplacent d'un village à l'autre, juste à côté, et les laboureurs qui peuvent prendre la route pendant des distances assez importantes. Et il y a aussi un déplacement fiscal. Et dans les recherches des feux en Bourgogne, on donne beaucoup de petites histoires sur les déplacements pour des raisons uniquement fiscales. Dans une paroisse, le métayer le plus important est parti. Il a été remplacé par la veuve Roideau. Alors la veuve Roideau a 12 enfants, donc elle est exempte de la taille. En ce moment, la côte perdue monte à 40% de la taille du village en question. Madame Roideau semble un vrai spécialiste de métier parce qu'on la retrouve quelques années plus tôt dans une autre paroisse, toujours avec ses 12 enfants, toujours exempte de la taille, toujours prenant une location assez importante. Ça doit être de la fraude fiscale, c'est évident. Alors, Daniel Roche a dit qu'il est important de relire les récits de voyage. On peut y chercher un moyen, un accès à la connaissance de la mobilité. C'est ça, exactement. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au 17e, 18e? Nous sommes assez bien renseignés pour la situation de la propriété paysan en Bourgogne, pas tellement ailleurs. Là, les paysans ont perdu leur portion des terres labourables entre 1475 et 1625. Sans un champ en propre, on devient beaucoup moins stable. Si nous pensons aux modalités constitutionnelles de la fin du XVIIIe siècle, en France, en Pologne, aux États-Unis, les révolutionnaires partout voulaient restreindre la vraie citoyenneté aux seuls possesseurs des terrains, précisément parce qu'ils croyaient que ce sont les seules personnes avec un attachement permanent au pays. Alors, je passe. Alors, je vous cite quelques exemples de registres des domiciles pour l'élection de Troyes et des élections normandes. Alors, dans l'élection de Troyes, on donne la cote, ce qui est important parce que ça nous donne une idée de l'importance fiscale. Alors, laboureur, par exemple, Nicolas Guernerin, est parti d'une paroisse dans l'élection du Mont. Pour devenir l'amodiateur de la seigneurie de Chamois, payant 3000 livres de rente. Et il signe avec beaucoup de facilité. En Normandie, on voit exactement la même chose. Et là, les registres normands nous donnent un autre renseignement très utile, les loyers. Dans les lex, c'est-à-dire le loyer dans la paroisse d'origine et le loyer dans la nouvelle paroisse. Dans l'élection de Caen, entre 1690 et 1708, 70% des hommes payaient un loyer au moins 20% de plus dans leur nouvelle paroisse, 15% en plus payaient un loyer de 20% de moins, donc 85% changeaient du statut économique. Dans l'élection de Caudebec, 1728, presque la même chose, 63% payaient 20% de plus, 18% payaient 20% de moins, alors donc 81%. Ce qui est encore plus frappant, c'est qu'un tiers des hommes payaient un loyer de 90% de plus dans la nouvelle paroisse. Oui, c'est évident, un changement de statut économique. Alors, je cite une documentation de Lacan qui donne des précisions sur la durée d'installation des nouveaux venus. C'est intéressant. 60% des bordiers, 50% des journaliers restent de moins de 2 ans dans la paroisse. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement, oui, c'est vrai, mais ils changent de paroisse tout le temps. Alors, s'il y a toute une série de paroisses adjacentes, c'est vrai, mais ça peut être 5 paroisses différentes. Ce n'est pas uniquement un tout petit va-et-vient entre 2 paroisses. En moyenne, les laboureurs demeurent 5,8 ans. Les journaliers, 4,3, les bordiers, 3,6. Entre 1721 et 1731, la borderie de Pierre Chollet connaît 4 occupants. 4 en 10 ans. Et les années 1720 sont heureuses. Alors, quel est l'impact non seulement pratique, mais psychologique des changements si fréquents parmi les laboureurs, c'est-à-dire parmi ceux qui dominent le village et qui équipaient la plupart des terres. Alors, je veux terminer pendant quelques minutes avec des réflexions sur la mobilité économique d'un seul groupe, des femmes. Alors, là, on voit dans les registres des transactions des domiciles, il y a des différences régionales assez importantes. En Normandie, par exemple, les femmes vont soit chez un membre de la famille, soit en ville. On voit pas mal. Et les femmes sur les registres de transactions de domicile sont presque uniquement des veuves. Et c'est presque toujours l'année même de la mort de leur mari. En Champagne, c'est pas du tout la même chose. On a des femmes qui se déplacent, des veuves, en ville et aussi chez leurs enfants. Mais un bon tiers des femmes vont en service chez des religieux, en ville et parfois chez des nobles. Et il n'y a presque pas un seul exemple de ça en Normandie. C'est intéressant. Alors, au XVIIIe siècle, la première moitié du XVIIe siècle, la France a vu la naissance d'une société globalement capitaliste, pas seulement dans ses grandes villes, mais un peu partout. Et c'était les femmes françaises qui furent les agents de ce bouleversement. Revenons au rôle d'impôt. Cette fois, nous avons cherché nos renseignements dans les petites villes de moins de 5000 habitants. Alors, excusez-moi une seconde. Alors, qu'est-ce qui change? Si on prend un rôle de taille, par exemple à Chalon-sur-Seine en 1751, 40% de la population entre une profession qui n'existe pas dans la ville 50 ans plus tôt. Parfois, il s'agit des professions nouvelles, comme cafetière. Et parfois, c'est une profession qui est bien connue dans les grandes villes, mais impensable dans une petite ville. Alors, Châlons a 8000 habitants, donc c'est un peu plus grand. Mais à Avallon, 4200 habitants, c'est à peu près la même chose. Alors, quelle sorte de profession? On a des marchands, des charcutières, des pâtissiers, des boulangers, femmes, toujours à Châlons. À Avallon, les femmes vendent du fruit, font des bonnets, font toutes sortes de choses. Alors, les professions, on a des traiteurs, des rôtisseurs. Il n'y avait pas un rôtisseur dans une seule petite ville bourguignon de la fin du XVIIe siècle. Mais au milieu du XVIIIe siècle, on trouve partout des cafetiers, des cafetières, des rôtisseurs, charcutiers, limonadiers. C'est inconnu. On a aussi des professions, une explosion des perruquiers, c'est la mode. Dans les villes comme Châlons, on a des professions assez spécialisées et parfois c'est une chose qui est vraiment intéressante. On voit le changement de description. Par exemple, dès 1780, plus ou moins, on voit de plus en plus de marchandes de mode dans les petites villes. Alors, c'est bien connu à Paris, mais c'est parfois uniquement un couturière, mais c'est parfois un vrai marchand de mode, parce qu'on voit dans les côtes, il y a des marchands de mode qui portent une côte d'un livre. C'est une couturière, évidemment. Mais juste à côté, il y a un autre qui porte une côte de 60, même 80 livres. Là, c'est vraiment quelque chose, c'est énorme. Alors, par exemple, dans les, si nous prenons la liste des professions clés données par Jean de Vries dans son livre sur la première économie moderne, le Pays-Bas, pour une ville, une petite ville moderne, en Hollande, au XVIIIe siècle, et c'est son liste, un haute tavernier, horloger, perruquier, orfèvre, pâtissier, médecin, chirurgien, notaire, avocat, libraire, musicien, sculpteur. En 1780, une ville comme Avallon, avec 4000 habitants, a chacun de ses professions. 50 ans plus tôt, très peu. D'après les recherches de Thierry Rigogne, nous savons que 58 villes françaises, d'une population moyenne de 4800 personnes obtenaient leur premier libraire entre 1761 et 1782. Alors, si les femmes travaillent à l'extérieur de la maison, évidemment, on a besoin de beaucoup plus de gens qui font des choses qu'on peut manger de suite. Alors donc, et pas mal de ces personnes, comme la veuve Jolie, sont des femmes. La veuve Jolie à Châlons est une charcutière le plus imposé de la ville. On a une marchande de mode avec ses neveux et sa nièce à Châlons qui paie la côte la plus importante de tous les artisans de Châlons. Alors, quels sont ces nouveaux dans les petites villes? J'ai donné quelques-uns, mais je donne la liste à Avallon. Alors, ça, c'est 1680 et 1750. Ce qui est nouveau, c'est horloger, tourneur, vinaigrier, orfèvre, vendeur de fruits, traiteur, quatre charcutiers, plâtrier, entrepreneur de bâtiment, j'adore ça, entrepreneur de bâtiment. Alors, ça existait depuis longtemps à Dijon, mais à Avallon, c'est inimaginable. Alors, en 1780, Avallon a ajouté, encore nouveau, quatre épiciers en gros, deux cafetières, un distillateur d'eau de vie, deux peintres, plusieurs joailliers, un faiseur de pièces de jeu, un libraire, une architecte, et deux marchands de mode. à Auxerre, qui a deux fois plus de population, déjà aux années 1750, on a des cafetières et marchands de café, commissaires du vin, limonadiers, rôtisseurs, ébénistes, faïenciers. Alors, on a beaucoup de marchands spécialisés qui vendent qu'un seul produit. Alors, ce changement dans le monde rural donne énormément de possibilités aux jeunes femmes. Et on voit dans les rôles de taille des villes et des paroisses une augmentation assez importante de la mobilité féminine au début du XVIIIe siècle par rapport au XVIIe siècle. Et donc, si on pense à la société française du XVIIe, première moitié du XVIIIe siècle, à mon avis, c'est beaucoup plus une société mobile qu'une société immobile. Je vous remercie.